Écoutez, souvent on se creuse la tête pour savoir, enfin on se creuse, on a un peu peur, on ne sait pas quel sujet aborder, et le mieux, c'est d'étudier la parole régulièrement, et ensuite de partager ce que l'on a compris de ce que l'on a étudié. Comme le pasteur l'a dit une fois, ma femme est en train de me faire un signe en me disant « quelque chose qui ne va pas ». Qu'est-ce qui se passe, chérie? Ma veste ne va pas. D'accord, merci. On tranche le problème, comme ça au moins c'est réglé. Voilà. Et le pasteur a dit une fois, on n'étudie pas parce qu'on prêche, on prêche parce qu'on étudie. Et ça bougera pas de là. Donc, des fois, vous savez, une parole à propos dans la vie de quelqu'un, c'est là parce qu'au quotidien, vous marchez avec Dieu. Et il ne s'agit pas une fois qu'on est... c'est pas quand on est en train de se noyer qu'il faut apprendre à nager. Ça, c'est autre chose que j'ai appris aussi. Et donc, je suis en train de lire le livre des Actes. Et... il y a des choses qui me marquent et je voudrais les partager aujourd'hui. Quand vous lisez le livre des Actes, c'est très intéressant parce que, comme vous le savez, donc c'est la vie des chrétiens, une fois que Jésus est remonté au ciel, et ça nous parle, puisque eux qui avaient vécu physiquement avec lui pendant 3 ans, là, ils n'ont plus cette présence physique à leur côté. Et donc je pense qu'on peut se sentir complètement concerné et inspiré par ce qu'a été leur vie, parce que c'est la nôtre aujourd'hui. Et en lisant le livre des Actes, il y a quelque chose qui m'a marqué, que je vais vous partager. Quand vous regardez dans le chapitre 1, et on va parcourir rapidement quelques chapitres du livre des Actes, il nous dit qu'après que Jésus soit remonté au ciel, au verset 12, la première chose qu'ils ont faite, le jour même, à l'instant même, c'est qu'ils sont rentrés du mont des Oliviers à Jérusalem, et ils sont allés, il nous est dit au verset 12 du chapitre, verset 13 du chapitre 1, à l'étage, dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont fait dans cette pièce, ce n'est pas une nouveauté, c'est un prolongement de ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il nous a dit au verset 14 qu'ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc, ils priaient avant le départ de Jésus et ils ont continué à faire ce qu'ils savaient devoir faire après son départ. La seule chose qu'il leur avait dite, c'était « vous restez à Jérusalem, vous attendez ». La promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais en dehors de ça, ils ne savaient pas que faire. Donc, eh bien, ils ont continué à faire ce qu'ils savaient devoir faire, c'est-à-dire persévérer dans la prière. La prière. Au chapitre 2, il nous est dit que lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ce qui ne veut rien dire à cette époque-là, le mot Pentecôte, eux, juifs, fêtaient la fête des moissons, c'est-à-dire Shavuot à cette époque-là. Et lorsque ce jour arriva, je partageais ça avec les jeunes hier, le Saint-Esprit est venu, mais on a tendance à banaliser cet événement. Il nous dit que ça a fait tellement de bruit que même les gens de l'extérieur ont accouru vers la maison pour voir ce qui se passait. Moi, j'assimile ça à l'explosion de l'usine AZF. C'est-à-dire que le bruit de la tornade, et sans l'effet de la tornade, juste le bruit, était si fort à l'intérieur de la maison que même de l'extérieur, toute la ville a accouru vers le bâtiment. Ça, c'est une expérience. Et ils persévéraient dans la prière. Chapitre 2, ils expérimentent le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte, avec toute cette puissance. Les gens accourent, Pierre discourt, et l'Église grandit d'un seul coup. Tout va pour le mieux. Chapitre 3, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, une fois encore, il y avait la prière qui était là, vont au temple et font un miracle, à savoir un homme qui était boiteux se redresse. Et personne ne peut ignorer ce miracle qui vient d'être fait, parce que cet homme se met à hurler et à bondir dans le temple où tous les juifs venaient prier. On ferme les magasins à 3h de l'après-midi pour aller prier au temple. Et là, devant l'étonnement général, Pierre, de nouveau, fait un discours, les gens ont le cœur touché et se tournent vers le Seigneur. Tout va pour le mieux. Et puis, il y a le chapitre 4. Et au chapitre 4, il nous est dit que Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent. C'est-à-dire qu'au beau milieu d'un succès fulgurant, phénoménal, les personnages de ce succès alors qu'ils sont dans la volonté de Dieu, sont jetés en prison. Et je pense qu'ils ont dû se poser la question, où est-ce qu'on a manqué le coche ? Parce qu'après tout, quand on est dans la volonté de Dieu, tout doit aller pour le mieux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que 1, 2, 3, c'est une ascension progressive, mais 4, boum, ils se retrouvent en prison. Il nous est dit que c'était le soir, ils ont été mis en prison jusqu'au lendemain. Mais cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à environ 5000. Le lendemain, donc, les chefs du peuple, etc., etc., bref, ils sont jugés. Et à l'issue de ce procès, il nous est dit, verset 14, « Comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant, mais que faire ? Que faire ? Parce qu'ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et on ne peut pas le nier. Mais, afin que ça ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Il faut savoir une chose à propos du Sanhédrin, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas de différence entre la loi civile et pénale et la loi religieuse. C'est-à-dire que le code civil et le code pénal, c'est la Bible. C'est la Torah. Ce qui veut dire que quand vous vous retrouvez devant le Sanhédrin, il a droit de mort sur vous. Notamment pour blasphème. Donc voilà que ces apôtres qui avaient vécu des choses extraordinaires sur les trois premiers chapitres, qui elles-mêmes faisaient suite à 3 ans extraordinaires avec le Seigneur, se retrouvent soudain face à un tribunal capable de les lapider si nécessaire. Imaginons un petit peu ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un chrétien qui passe par ce genre de choses. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Quand les choses ne se passent pas comme prévu ». Peut-être que vous êtes concernés, ou ceux qui écoutent le message sont concernés. Que faire quand les choses ne se passent pas comme prévu ? Je pense que pour eux, ça ne se passait pas comme prévu. Alors, ils s'en sortent pas mal quand il y a le délibéré, le verdict qui est dit « Bon ben voilà, on vous laisse partir », ce qui est déjà énorme, « mais on vous interdit de prêcher au nom de Jésus ». Verset 19, Pierre et Jean leur répondirent. Vous savez, normalement, quand vous sauvez votre tête, vous sortez en courant du tribunal et vous n'y remettez pas les pieds. Seulement, là, Pierre et Jean leur répondirent. Je ne crois pas que le délibéré appelait une réponse particulière. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, ou plutôt Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, verset 20, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Non mais vous imaginez le truc. Je pense que peut-être ils étaient prêts à mourir pour leur foi là. Ils ont dit bon ben allons-y, de toute façon. Il est dit ensuite, les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. Deuxième miracle, dans la même journée. Dans la troisième miracle, ah non, l'autre c'était la veille. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas les moyens de le punir parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent vers les leurs. Ils prient ensemble et il nous est dit au verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous, donc après la Pentecôte, c'est un tremblement de maison, on pourrait dire. Je ne sais pas s'il était de terre, mais de maison en tout cas, qu'ils expérimentent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça se poursuit, verset 32 suivant, chapitre 5. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme, personne ne disposait de ses biens, etc., etc., etc. On voit que l'Église grandit. Au verset 5, il y a l'épisode de Ananias. Merci Elisabeth. Et Saphira. Non, j'avance. Et voilà un nouvel épisode qui assoit un peu plus l'autorité des chrétiens dans cette ville. La parole de Dieu qui est prêchée. Et de nouveau, tout va pour le mieux. Bien. Jusque au verset 17. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres. Rebelote. Et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, fuyez loin de ce pays. C'est ce qui est écrit, non? Il leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu ça, ils entrèrent de bonne heure dans le temple, donc le lendemain matin, alors qu'ils étaient en prison la nuit. Voilà qu'ils sont de nouveau dans le temple, en train d'insister lourdement pour annoncer l'évangile comme l'ange leur a dit de le faire. Ce n'est pas une idée de leur part. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient qu'obéir à la volonté de Dieu en se maintenant, en résistant. J'emploie le mot à dessein. Voilà un esprit qu'il est bon de rallumer. Pour les chrétiens en ces temps, la résistance. Et en continuant à faire ce que Dieu leur a dit de faire. Bien. Donc, Ananias et Saphira, arrestation, délivrance. Ils sont dans le temple le lendemain matin. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens, ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison pour qu'ils soient jugés. Seulement voilà, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Un nouveau miracle qui vient de se passer devant les yeux des responsables religieux de l'époque. À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant pas que penser de cette affaire, ne sachant que penser. Quelqu'un vient leur dire « Hé, les hommes que vous avez mis en prison, ils sont dans le temple et ils enseignent le peuple !» Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, doucement au milieu de la foule, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, le jour même, après avoir été délivrés surnaturellement, ils se retrouvent de nouveau sur la case prison. Et ils sont au beau milieu de la volonté de Dieu. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin, le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Bien, Pierre se défend, ils sont jugés, et cette fois-ci, ils sont châtiés. C'est-à-dire que, au verset 40, il est dit qu'ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchent. On monte d'un cran dans la tribulation, je dirais, dans la persécution, dans les épreuves que nous avons à rencontrer, même au beau milieu de la volonté de Dieu. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, ça c'est extraordinaire, ça c'est aussi un miracle, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Bon. On continue, verset 6, chapitre 6, alors que, en cette époque-là, le nombre de disciples augmentait. Blablabla, ils élisent des diacres pour servir dans l'Église, verset 7, pardon, « La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et même une grande foule de prêtres, juifs, obéissaient à la foi. » Donc, on a l'impression que ça monte, crac, boursier, ça remonte plus haut encore, recrac, ça remonte plus haut encore. Le cran suivant, c'est quoi ? Étienne est carrément lapidé sur la place publique. On avance, mais l'épreuve avance, elle aussi, elle augmente. Mais on persiste, on persévère, on résiste, on tient bon. Mais l'épreuve se durcit, mais on continue à tenir bon. Étienne est lapidé, c'est le chapitre 7. Au chapitre 8, un nouveau personnage fait son apparition qui s'appelle Saul, un jeune homme juif, très instruit, très érudit, qui approuve le meurtre d'Étienne et qui garde les manteaux de ceux qui jettent les pierres pendant ce temps-là. Et à partir de là, énorme persécution contre l'Église de Jérusalem. On n'est plus simplement à prendre les apôtres et à les jeter en prison ou à les faire fouetter, on vient de lapider un diacre de l'Église en public et il nous est dit, verset 3 du chapitre 8, « Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église ». On n'est plus seulement en train de vouloir interdire la propagation de l'Évangile, on est dans une œuvre délibérée, organisée, approuvée par le gouvernement, de destruction de l'Église. Il pénétrait dans les maisons, mettez-vous à la place de ceux qui sont en train de prendre leur repas ce soir-là. en arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Et nous, quand on commence à avoir une petite jurisprudence qui dit que les ERP, peut-être pour les églises, c'est compliqué, ah bon, bon, on arrête tout. Qui se sont ajoutés entre les deux chapitres. Il reste 12 chrétiens sur au moins 10 000 dans cette ville. Et tous les autres sont partis. Mais ça continue. C'est-à-dire que même en exil, il continue, il nous est dit au verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés alliaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » Il continue de propager la parole, c'est-à-dire si je ne peux pas rentrer par la porte, je vais rentrer par la fenêtre. Et on voit que là, peut-être qu'à Jérusalem, c'est sur pause, quoi qu'il restait les apôtres, mais l'évangile est en train de se propager au-delà des frontières de Jérusalem. C'est-à-dire que si tu t'accroches, plus on te cogne dessus, plus le Seigneur te donne la force de prolonger et de propager encore plus son œuvre. Si tu restes accroché, si tu restes accroché. Grande persécution. J'avance un petit peu. Le leader de cette persécution, c'était Saul de Tarse. D'accord ? Le rabbin Saul de Tarse. Chapitre 9, quant à Saul, il respirait toujours la menace. On a dit quoi ? Qu'il les arrachait, qu'il les faisait jeter en prison ? Oui, mais là, il nous est dit qu'il respirait, la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et ramener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Et comme il était en chemin à Damas, en route vers sa politique, on pourrait dire, d'extermination, parce que c'était ça. Voilà qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Et que le Seigneur emploie la manière forte avec lui. Tellement forte qu'il en tombe de cheval. Aveuglé. Qui ne mange plus pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'au beau milieu de la volonté de Dieu, il y a une épreuve qui est terrible. Mais au beau milieu de cette épreuve qui est terrible, il y a une manifestation de Dieu qui permet non seulement d'arrêter l'épreuve, mais de rebondir encore plus haut. Parce que tu prends le leader de l'extermination et tu en fais un champion de ta cause. Qui aurait pu prévoir ça ? Ce qui se passe au chapitre 9, regardez au verset 28, il nous est dit, donc après sa conversion, « Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, c'est-à-dire les juifs de culture grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. » On n'y va plus avec le dos de la cuillère maintenant. Quand il y a un leader religieux chrétien à Jérusalem, on cherche à le supprimer. Et oui, c'était leur... Pour ceux qui jouent aux échecs, c'était la reine, là. C'était la pièce la plus puissante de l'échiquier qui vient de changer de couleur d'un seul coup. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée, le firent partir pour Tarse, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, c'est-à-dire dans tout le territoire d'Israël, grâce à ce que Dieu avait fait à travers Saul et à Saul. Voilà que l'Église sort de cette persécution, est en paix sur tout le territoire et se remet à grandir. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et après, vous lirez la suite dans le livre des Actes. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que ne pensons pas, arrêtons de nous triturer le cerveau quand il y a une épreuve dans notre vie en nous disant « Où est-ce que j'ai manqué le coche ?» Bien sûr que tu te poses la question. Mais si à un moment donné, il n'y a pas une réponse que le Saint-Esprit te donne, c'est peut-être parce que tu n'as manqué aucun coche. Tu es juste dans la volonté de Dieu. On vit sur terre. Le monde n'est pas parfait. Les gens ne sont pas parfaits. Les pneus de ta voiture ne sont pas parfaits. Donc si à un moment donné tu crèves sur l'autoroute, arrête de croire que c'est parce que le diable a envoyé un démon clouteur. Parce qu'il y a des démons clouteurs, il y a des démons décolleurs de tapisserie, il y a des démons troupes de voisinage. Vous savez ? Non ! T'as juste pris un clou. C'est pas grave. Il n'y a pas de démon là derrière, t'es pas hors de la volonté de Dieu. remets-toi, répare ton pneu et avance. On est sur terre. On est sur terre. Bien. Que faire quand les choses ne se passent pas comme prévu? D'abord, vous pouvez relire le livre des Actes, et ça va vous encourager en vous disant que finalement, nos vies sont assez tranquilles, dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ensuite, il m'est revenu trois exemples, je voudrais qu'on les voit ensemble, de gens qui se sont retrouvés au pied du mur. Et voir comment ça s'est passé pour eux. Il y en a de multiples dans la Bible. Il y en a de multiples. Mais il y en a trois qui me sont revenus que je voudrais qu'on partage ensemble. D'abord, dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je vous resitue le contexte. Un homme qui n'était ni juif, ni chrétien, ni quoi que ce soit, qui n'a rien demandé à personne, s'appelle Abraham. Et Dieu passe une alliance avec lui. En tout cas, Dieu, dans un premier temps, fait une promesse à Abraham. Parce qu'Abraham était très riche, mais Abraham allait mourir sans héritier. Et ça lui pesait sur l'embouligue. Et donc, quand le Seigneur se révèle à lui, Abraham lui dit, mais j'ai pas d'héritier, donc de toute façon, bon, c'est très beau les promesses que tu me fais de descendance, etc., mais ça va être un de mes serviteurs qui va hériter de tout ça, finalement. Et il dit, non, non, c'est ta descendance qui va hériter de tout ça. Bon, Abraham, on dit souvent Abraham a manqué de patience, il a été avec Agar, parce que moi je croyais ça. Dieu lui avait promis Isaac, et comme ça tardait à venir, finalement il a été avec sa servante. Mais quand vous relisez la chronologie, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il n'y avait pas la promesse d'Isaac au moment où il a été avec Agar. La promesse d'Isaac est venue après. Donc je suis beaucoup plus cool avec Abraham, et ce qu'il a fait avec Agar, que ce que j'étais avant, dire « Oh, voilà, alors tu vois, t'as tout... » Non. Il y a eu une promesse d'héritage à travers la descendance, mais Isaac, vous relirez, ça n'est venu que plus tard. Cela étant, Isaac finit par arriver. Fils unique, fils de la promesse, fils par lequel il est question qu'une descendance se poursuive. Au chapitre 22, après cela, Dieu, verset 1, mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Et au cas où tu n'aurais pas compris, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Je pense qu'Abraham se pose beaucoup de questions cette nuit-là. Comment je sais que c'est la nuit? Je ne sais pas, je le suppose du verset suivant qui nous est dit « Abraham se leva de bon matin ». Donc Dieu a mille et une façons de parler aux gens, peut-être que là c'était à travers un rêve. Il s'est levé de bon matin parce que sa nuit a dû être relativement courte après ce rêve. Et voilà que Dieu, le même Dieu, qui lui a fait la promesse, lui dit « Offre ton fils en holocauste ». Mettons-nous toujours dans la peau des gens. Ce sont des gens, ce n'est pas des super-héros. Ce n'est pas des mythes ou des fables, ce sont des êtres humains. Mettons-nous dans leur basket deux secondes. Quand il a plus pu fermer les yeux, vraisemblablement de la nuit, qu'est-ce qui est passé par sa tête? Et pourtant, il nous dit que de bon matin, il se leva, il sella son âne, il prit avec lui deux serviteurs, son fils Isaac, il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, c'est pas dans la foulée. Vous avez trois jours de marche avant d'arriver à l'endroit. Il se passe quoi dans la tête d'Abraham pendant trois jours, avec son fils à côté, à qui il n'a pas dit ce que Dieu lui avait dit? Il leva les yeux, vit l'endroit de loin, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Est-ce qu'Abraham était un menteur? Non. Un mythomane? Non plus. Où se trouve la clé pour comprendre ce qu'il y avait dans la tête d'Abraham? Dans Hébreux, au chapitre 11. Vous savez, vous avez la Bible écrite, mais les Juifs, vous avez tout un pan qui est de la transmission orale. Et qui a autant d'importance que la Bible écrite pour eux. Et Paul, par exemple, ce fameux rabbi Saul dont on a parlé tout à l'heure, lui, il connaissait aussi bien l'écrit que l'oral. Donc quand il écrit les épîtres, il est très intéressant de lire ce qu'il peut avoir à dire pour compléter, parce que ce n'est pas une invention de sa part, c'est simplement des choses qui ont été transmises oralement parallèlement à l'écrit. Quand vous regardez dans Hébreux chapitre 11 au verset 17, il nous est dit, dans cette galerie des héros de la foi, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Verset 19, il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Voilà ce qu'il y avait dans la tête de ce papa quand il faisait 3 jours de marche avec son fils à côté pour aller le sacrifier, alors que Dieu lui avait dit, par lui, tu auras une descendance. Il ne comprenait pas comment c'était possible. Mais plutôt que de rester les bras ballants en disant, ben, je ne comprends pas, il a obéi à ce que Dieu lui a dit de faire, en disant, même si je devais aller jusqu'au bout de l'acte, Dieu est suffisamment puissant pour ressusciter mon fils derrière. Intéressant, hein ? Est-ce qu'on peut avoir le même schéma de pensée que lui ? C'est possible. Quand il y a des choses que tu ne comprends pas, cherche pas à d'abord vouloir tout comprendre. Et parce que ça fait appel à des paramètres qu'on n'est pas tous en mesure de gérer avec, ou je dirais qu'aucun n'est en mesure de gérer avec notre petit cerveau dans notre boîte crânienne. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Comment veux-tu comprendre pourquoi certaines choses t'arrivent ou pourquoi Dieu te demande certaines choses ? Mais par contre, il savait une seule chose. Dieu a promis. Dieu est bon. Et parce qu'il est bon et qu'il a promis, il va trouver une solution. Je ne sais pas laquelle, et à la limite, je ne veux pas savoir laquelle. Lui, il pensait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Donc voilà comment cet homme, au pied du mur, alors qu'il était coincé parce que humainement, il avait entendu ce que Dieu lui avait dit de faire, s'est dit, de toute façon, Dieu va m'ouvrir une porte dans le mur. Même si je suis coincé, il va m'ouvrir une porte. Premier exemple. Deuxième exemple, 2 Rois chapitre 6. Verset 8, là encore le contexte. Israël est sans cesse attaqué par des nations alentour, dont la Syrie. Vous voyez qu'on n'a rien inventé, hein ? Et il nous a dit au verset 8, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, le prophète Élisée qui était en Israël, fit dire au roi d'Israël, « Attention, ne passe pas à cet endroit parce que c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une ou deux fois. C'est-à-dire qu'à chaque tentative de prise par surprise, que le roi de Syrie faisait, le roi d'Israël était prévenu par le prophète. À tel point que le roi de Syrie, verset 11, en eut le cœur tout troublé. J'aime ces métaphores bibliques. Il en eut le cœur tout troublé. Je pense qu'il y a quelques gars qui ont eu leur tête qui a sauté à coups de glaive, mais il a eu le cœur un peu troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » Capturer, encore une belle métaphore. Imaginons 2 secondes ce qui attendait Élisée dans les geôles du roi de Syrie. Il n'y avait pas la déclaration des droits de l'homme à l'époque. Hein. On vint lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya, il a dû mettre le paquet, des chevaux, des chars. Il est tout seul maintenant le gars, hein, chez lui, hein, Élisée. Des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Bien, tu es prophète. Toi, tu n'as rien demandé, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Tu ouvres tes volets. Demain matin, la bouilloire est en train de faire chauffer le café derrière. Et devant tes yeux ébahis, tu as des tanks, des lance-roquettes, des types armés jusqu'aux dents, cagoulés, exactement, le SWAT, le GIGN, le GIPN, tout ce que vous voulez. qui est devant ta maison en joue prêt à tirer. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chats. Bon, il a dû faire fissa à marche arrière pour rentrer vite, vite, aller se réfugier près d'Élysée. Il lui dit « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Élysée a eu cette phrase. Il lui a dit « N'aie pas peur. » Et je vais vous dire ce que j'ai lu, et après on va relire ensemble. Moi, j'avais toujours lu « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. » Et, on lit la suite, verset 17, « Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour, tout autour d'Élisée. » Et ça ne s'arrête pas là. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ça y est, ils avancent. Vers ta maison. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne ville. Ce qui a fait dire à beaucoup que c'était pas un aveuglement physique, c'est un aveuglement mental. Ils ont, parce que c'est une confusion. Ils ne voyaient pas que c'était lui l'homme qu'ils venaient chercher. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, capitale quand même, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, faut-il les tuer, mon père? Élisée répondit, tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers, toi, grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et qu'ils boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. C'est surprenant, hein? La parole de Dieu va t'amener à faire des choses, y compris vis-à-vis de tes ennemis, auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils repartirent vers leur maître. Résultat, les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. On sait que c'est pour quelque temps, parce que le verset suivant rebelote. Mais vous savez que quand vous lisez un chapitre de la Bible, ce n'est pas parce que c'est dans le même chapitre que c'est au même moment. Le livre des Actes, par exemple, commence avec l'ascension de Jésus. À l'an 29, 33, peu importe. L'ascension de Jésus. Et il se termine avec Paul à Rome. Or, on sait que les épîtres ont été écrites vers l'an 62, 63, avant, entre 58 et 64. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre des Actes, que vous pouvez manger d'une seule traite dans la soirée, il couvre 30 ans. C'était une parenthèse. Donc, voilà ce que j'avais lu. Et je me suis dit, c'est quand même curieux, à quoi servent ces chevaux et ces chars de feu si c'est pour finalement les frapper d'aveuglement? Il n'y a pas besoin des chevaux et des chars de feu. Non? Je suis le seul à me poser des questions logiques en lisant un texte illogique. Et j'ai relu le verset. Et voilà ce que le Seigneur m'a montré. Regardez ce qui est écrit au verset 16. Il leur répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire les chevaux et les chars de feu, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce qui veut dire, il n'a pas dit que les chevaux et les chars de feu étaient plus nombreux que les Syriens. Il a dit que les chevaux et les chars de feu étaient plus nombreux que les autres puissances invisibles qui étaient derrière les Syriens. Ce n'est pas d'un combat naturel qu'il s'agissait là. C'était derrière la Syrie des forces mauvaises qui étaient là pour faire taire Élisée. Et l'aveuglement de la troupe a pu avoir lieu parce que les chevaux et les chars de feu avaient vraisemblablement mis en déroute les êtres qui se trouvaient derrière les Syriens. C'est-à-dire qu'il y a un combat spirituel devant tes événements naturels. Mais, il est dit, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc dans tes événements, dans tes difficultés, dans tes épreuves, souviens-toi que derrière la personne physique, ou l'administration, ou la difficulté, ou la facture, peu importe, peut se trouver une puissance mauvaise, inférieure à celle qui est avec toi. Amen. Et qui te donne la délivrance. Amen. Et qui te donne la délivrance. Amen. Ok. Troisième exemple, Daniel chapitre 3. Le contexte, c'est que ennemi après ennemi après ennemi après ennemi, ce sera finalement Babylone qui aura la peau d'Israël. Ils détruisent tout, ils emmènent tout le monde, ou la majeure partie, en captivité, ils pillent le trésor, et voilà qu'à Babylone, dont le roi était Nabuchadnezzar, roi des rois et dieu des dieux, d'après lui-même, il a une politique qui est intéressante, qui est, plutôt que de supprimer tout le monde, il garde l'élite, les jeunes, parce que les jeunes peuvent être reprogrammés, et il en fait de fidèles sujets, pour développer son propre royaume. Ce qui est assez intelligent. Et parmi ces jeunes juifs de l'élite, il y en avait quatre, qui s'appelaient Daniel, Anania, c'est Daniel chapitre 1 verset 6, Michaël, et non pas Michaël, Michaël, et Azaria. La première chose qu'on a fait, après sans doute leur avoir rasé la tête, après sans doute leur avoir fait changer de vêtements, c'est de leur donner un nouveau nom, en disant vous allez déjà oublier la base même de vos racines hébraïques, c'est-à-dire votre nom, vous oubliez, on va vous donner un autre nom. Et ils les appelèrent donc Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego. J'avance un petit peu, chapitre 2. Donc ces gens-là étaient instruits dans la culture babylonienne et on voulait les reprogrammer pour en faire donc des héros AUT de l'Empire babylonien. Il nous a dit d'abord, chapitre 1, verset 17, on peut même, je vous raconte le contexte en deux mots, c'est qu'ils n'ont pas voulu manger de tout ce qui était proposé dans ce pays-là. Ce sont des juifs, ils ont des interdits alimentaires. Et ils disent, ils nous ont peut-être pris notre nom, mais on va faire tout ce qu'il faut pour résister à nouveau. Et ça a commencé par la nourriture. Et ils ont dit, non, tu vas manger ce qu'on va te donner à manger. Il a dit, tu sais quoi ? Fais un essai avec nous pendant 10 jours. Si au bout de 10 jours, on est faiblard par rapport aux autres, ok. Il a dit qu'au bout de 10 jours, ils étaient en meilleure forme et avaient pris plus de poids que ceux qui mangeaient ce qu'on leur donnait à manger. Donc, cet acte de résistance, c'est un message très clair pour nous dans le livre de Daniel sur le comportement que l'on peut avoir dans des temps d'oppression, dans des temps de difficulté, dans des temps d'occupation ou même de déportation. Il nous est dit au verset 17 que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Verset 19, le roi discuta avec eux, et parmi tous les jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans son royaume, dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du règne de Cyrus. Il nous a dit que la deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves, deuxième année de son règne. Et il est question notamment, à un moment donné, par la suite de cette statue, on a déjà été enseigné à ce sujet, c'est une statue prophétique, personne n'a pu lui donner l'explication de ce rêve, réaction d'un roi en bonne santé mentale et modéré, qu'on leur coupe la tête. C'est écrit au verset 12. « Cela mit le roi en colère, il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. » Pause, 2 secondes. Vous êtes en captivité. Votre pays vient d'être rasé. Le temple, qui était la chose la plus sacrée, vient d'être démoli. Vous avez vu des amis, des membres de la famille se faire tuer devant vos yeux. On vous traîne par les cheveux dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue. On vous rase la tête. Ça vous rappelle quelque chose ? On change vos noms, on vous humilie et on veut carrément vous faire un lavage de cerveau. Puis, par un acte de résistance, vous mettez votre foi en action, parce que c'est de ça dont il s'agit, et Dieu vous élève. Et voilà qu'au beau milieu de cette tourmente, vous vous retrouvez plus haut que les hauts. Que les hauts, d'ailleurs. Et tout va bien pour vous. C'est comme le livre des Actes. Ça monte, ça monte, ça monte, et crac. Voilà qu'il y a un décret du roi qui dit qu'on les mette tous à mort, sans exception, y compris les quatre là-bas. Ils ont dû se poser la question, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Où est-ce qu'on a loupé le coche ? Finalement, Daniel, on lui explique pourquoi ce décret a été pris. Il demande un temps, un sursis. Et dans le cadre de ce sursis, Dieu lui donne l'explication du rêve qu'il va donner au roi. Et la réaction est, verset 46, « Alors, le roi Nebuchadnezzar, roi des rois et dieu des dieux, l'être le plus haut sur terre de cette époque. » Il faut imaginer deux secondes. Hein. Si vous avez vu des films, c'est... « Tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. » Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur, pas en l'honneur de Dieu, en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et il lui fit de nombreux et grands cadeaux. Mais remettons-nous à l'échelle de qui était Nebuchadnezzar. Il lui donna le gouvernement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, c'est-à-dire on n'oublie pas les copains. Lui-même resta à la cour du roi, encore plus haut après l'épreuve que ce qu'ils étaient avant. Chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Je voulais avoir un point de comparaison, j'ai trouvé. 30 mètres, c'est le Christ de Rio de Janeiro. Donc vous avez déjà vu hein, cette statue du Christ comme ça. Vous regarderez la taille des touristes par rapport à la taille de la statue. Voilà la taille de la statue en or que s'est fait ériger le roi Nebuchadnezzar. Vous avez une autre version biblique qui vous dit la 18e année, c'est-à-dire de son règne. Nebuchadnezzar qui administrait des villes, des régions, etc., etc. On a vu que l'épisode précédent se passait la 2e année du roi de Nebuchadnezzar. Ce qui veut dire que cet épisode de la statue en or se passe 16 ans après le précédent épisode. Ce n'est pas dans la foulée. Ils ont eu 16 ans où ils étaient au top du royaume, du plus grand royaume de la terre. 16 années comme cela. Et voilà que 16 ans plus tard, Nebuchadnezzar, peut-être se voyant âgé, peut-être voyant sa fin proche, à mon avis, c'est une réponse psychologique, voire psychiatrique, à la destruction de la statue qu'il avait vue en rêve. La statue que je vais construire fera 30 mètres de haut, elle sera en or massif et elle sera indestructible. Bon, c'est une pensée. Il fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, les magistrats. Enfin, il y a tout le gratin, quoi, il y a tout le monde. Il n'y a pas un balayeur qui n'était pas convié à venir à l'inauguration de la statue. Pour qu'il se rende à la dédicace de la statue qu'il avait dressée, alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout. Un héros, AUT, cria à pleine voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Au moment, ils pensaient venir pour un super buffet et finalement ils se retrouvent avec des ordres qui leur sont donnés. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, incroyable, et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Bien. Ça me rappelle, il y a 60 ans, quand il fallait saluer le passage des croix gammées. C'est pas vieux, hein ? Regardez les plaques à Nice, des gens qui ont été fusillés ou pendus. C'est pas vieux et c'est pas loin. Voilà exactement le même contexte. Il nous est dit, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de tout l'orchestre, les nations, les hommes, les peuples de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Vous imaginez bien que nos quatre amis étaient juste à côté du roi. Ils n'étaient pas cachés derrière la foule. Ils étaient devant tout le monde, puisque c'est eux qui administraient le royaume. Et eux, ils restent debout. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre pour toujours d'après l'ordre que tu as même, toi-même donné ?» etc., etc. Ils n'adorent pas. Ils ne servent pas tes dieux. Et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Déjà, je pense qu'être au top du pays pendant 16 années consécutives et ne pas adorer, ne pas plier à la religion d'État, ça doit être quelque chose quand même. Il faut s'imaginer deux secondes. Je veux dire, vous êtes au vu et au su de tous. Quel acte de résistance ? Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux. C'est le genre de gars qui ne valait mieux pas l'irriter ou le rendre furieux. Donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego, donc les trois. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Est-ce que c'est vrai que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adurez pas la statue en or ? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son des instruments, de la trompette, etc., vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Ça me rappelle Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Hein ? Écoutez, l'attitude, c'est important d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de ta fournaise ardente, roi. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, c'est-à-dire qu'au beau milieu d'une situation qui exigeait... Non, mais, on dit souvent, faut mettre sa foi en action. Vous savez ? Et je me suis rendu compte que souvent, c'est quand j'ai très très mal quelque part ou quand j'ai une grosse facture à payer que je mets ma foi le plus en action. C'est pas quand tout va bien. Imaginez la pression que d'un coup, ils ont dû ressentir. Là, vous parlez d'être au pied du mur. Bien. Donc je pense que leur foi, elle était au top de ce qu'elle pouvait être à ce moment-là. Et pourtant, voilà le discours qu'ils tiennent. Il va nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas. Moi, cette phrase, elle m'intrigue. Hein. Vous voulez même que je vous dise, elle m'encourage. On a toujours tendance à dire, oh, faut être au top de la foi, pas de parole. Apparemment, c'est pas de l'incrédulité. Même s'il ne le faisait pas. Sache, roi, pourquoi c'est pas de l'incrédulité ? Parce qu'ils ont été délivrés. Or, on a tous tendance à croire à un moment ou à un autre, attention, si ma foi n'est pas au top, si je deviens, j'ai des paroles d'incrédulité, ça ne va pas marcher. Et pourtant, ça a marché. Sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était irrité et furieux. Là, il est rempli de colère. J'aime ces métaphores bibliques, je vous dis, parce que je pense qu'on aurait eu d'autres mots pour décrire. Il a pété un câble, le mec. Il est dit, il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire qu'il a dû, je ne sais pas la tête qu'il a dû faire, mais ça a dû être un horrible. Reprenant la parole, parce qu'il en a eu carrément la parole coupée, quoi. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Et la suite nous dit que, puis, d'ailleurs on va le lire, il ordonna à quelques soldats particulièrement forts, donc vous imaginez les bœufs quoi, les Golgothes, de son armée d'attacher les trois et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, je trouve ça amusant, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, ça devait être blanc à l'intérieur, carrément. La flamme tua les hommes qui avaient jeté les trois à l'intérieur. Ils ont dû ouvrir, comme quand vous avez un four à pizza sur les cuisines d'été, vous savez. Ça monte à 400 et vous ouvrez, ou quand vous ouvrez le four, même à la maison, hein, tout simplement. Et vous prenez un... Mais là, c'est carrément le retour de flamme, quoi. Ça a cramé les soldats. Ils sont morts sur le coup. Quant aux trois hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Bon, on aurait pu croire que finalement un événement... Ils auraient pu croire que finalement un événement miraculeux allait se passer et qu'ils ne seraient pas jetés dans la fournaise. Eh bien, ils ont été jetés. Malgré toute leur foi, malgré le fait qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, jetés dans la fournaise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est ça que j'essaie de te dire ce matin. L'histoire ne s'arrête pas là. Je ne sais pas si tu es au pied du mur dans ta vie, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent, « Certainement, roi !» Il reprit, « Eh bien, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Alors ils sortirent du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé et que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. » Moi, je crois que c'est Jésus qui était avec eux dans la fournaise. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Quand tu es tenté de baisser les bras, quand tu es tenté de jouer le statu quo ou de faire des compromis dans ta vie, souviens-toi de cet épisode. Ils ont préféré enfreindre l'ordre du roi. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de donner des ordres, le gars. Alors, je change d'avis. Voici l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, il sera mis en pièces. Et je pense que c'était au sens propre, pour ainsi dire. C'est pas très propre, mais... Mis en pièces. Et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre dieu capable de le délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer nos trois amis. Comme le livre des Actes. La même chose exactement. La plus grande persécution, le plus gros miracle. Et la plus grande progression derrière. Bien, je vais terminer en vous lisant deux autres versets. Le premier se trouve dans Josué 1.5. Que faire quand les choses ne se passent pas comme prévu? Souviens-toi de ces exemples, relis ces versets. Souviens-toi que dans la fournaise, Jésus était avec eux. Même si la solution que tu attends ne se présente pas, elle ne s'est pas présentée à Abraham, la solution qu'il attendait. Ou en tout cas, elle ne s'est pas présentée quand il l'attendait. Le serviteur de Élisée, il a eu une solution tout à fait inattendue. Nos trois amis ont eu une solution inattendue parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Josué 1.5 fait suite, je vous le dis, à Deutéronome 31, 7, 8. Où Moïse, devant tout Israël, passe le bâton à Josué. Moïse savait qu'il ne rentrerait pas en terre promise. Et devant tout Israël, il dit donc, Deutéronome 31, 7, 8, Moïse appela Josué, d'abord il bénit le peuple, il les encourage. Il y a beaucoup de choses à dire, verset 4, l'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sihon et Og, le roi des Amoréens. Il y a beaucoup de choses à dire sur Og. Mais si vous aimez le Seigneur des Anneaux, vous verrez qu'il n'a rien inventé, Tolkien, c'est écrit dans la Bible. Og était un géant. Il est question de la taille de son lit. Vous relirez le précédent. Et verset 7, donc il appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage. » Je pense qu'il a dû voir la couleur du visage de Josué. « Car tu entreras avec ce peuple. » Ça, c'est une promesse. C'est même un ordre. « Dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettra en possession, l'Éternel marchera. » Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut te dire ce matin. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Puis, après la mort de Moïse, Josué s'entend dire par Dieu, au verset 5, personne ne pourra te résister tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Vous savez que dans beaucoup de passages de l'Ancien Testament, quand il est dit que Dieu s'adresse à quelqu'un, c'est par Jésus, c'est Jésus qui s'adresse à la personne. Il est parfois question de l'ange de l'Éternel avec une majuscule. Donc moi, ça m'aide de me placer dans la peau des personnages de l'Ancien Testament en sachant que c'est déjà Jésus qui vient leur parler. Et leur dire, d'ailleurs, il est dit dans Jean chapitre 10, il est dit « Le Père et moi, nous ne sommes qu'un. » C'est-à-dire que même si les deux ont des fonctions différentes, leur substance, c'est la même. Jésus est une émanation de Dieu. Souvent, on pense à... Je fais juste cette parenthèse, mais... On pense à Jésus comme une création de Dieu. Mais en réalité, il est une duplication de Dieu. Il est une émanation de lui. C'est-à-dire que ce qui fait la nature même de Dieu compose Jésus lui-même. Et ils sont un. Je ferme la parenthèse. Donc, fortifie-toi et prends courage. Non, pardon, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage. » Et au verset 9, « Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. » Souvent, c'est parce qu'on regarde les yeux sur notre situation, sur nous-mêmes, sur nos incapacités, sur nos doutes, sur nos faiblesses, sur... nos manques de ressources, sur tout ça, qu'on commence à avoir peur en disant « Je ne peux pas le faire ». Tu as raison. Tu ne peux pas le faire. Seul, tu ne peux pas le faire. Mais la promesse que nous avons quand nous sommes au pied du mur, c'est que nous ne sommes pas seuls. Et il nous est dit ici « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Tu dis « Je me suis mis dans les problèmes tout seul. » Où que tu ailles, il est avec toi. Amen. Vous entendez ça? Et j'ai une note de bas de page qui nous dit, d'ailleurs dans le dernier verset de Matthieu, dans le tout dernier verset de Matthieu, il est dit, donc Jésus, là pour le coup, c'est lui physiquement qui parle à ses disciples et qui leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, je. C'est une double affirmation. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même chose que ce qu'il a dit à Josué. Et j'ai une note de bas de page qui dit ça, ça renvoie au premier chapitre de Matthieu. Quand il est dit, tu l'appelleras, il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu face à nous, pas Dieu là-haut et nous ici, Dieu avec nous dans la fournaise. Bien. Alors, si tu es au pied du mur, ou quand tu vas être au pied du mur, parce que malheureusement, on vit sur une terre qui n'est pas parfaite, et malheureusement, tout n'est pas toujours comme on le voudrait ou comme on l'a prévu. Et même quand les choses ne se passent pas comme on l'a prévu, la solution vient après d'une autre façon que celle que l'on avait prévue, parfois. Il n'y a pas de mur qui puisse te retenir à un endroit où Jésus ne peut pas te sauver. Il n'y a pas de fournaise qui soit suffisamment chauffée sur cette terre pour pouvoir te brûler si Jésus est avec toi. Et Jésus est avec toi. Donc accroche-toi à Jésus. Garde les regards sur lui. Persévère, résiste. Tout ce qu'on a vu a été le fruit de la résistance et de la persévérance. Je parlais hier aux jeunes à propos de la prière et je leur disais, regardez à combien de fois en l'espace de 7 ou 8 chapitres dans le livre des Actes, il est question de la prière. Et ils priaient, et ils se rendaient au temple pour prier, et ils persévéraient dans la prière. Et ce qui va souvent avec prière dans les livres des Actes, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit. Et la persévérance. Le mot revient, en l'espace de 8 chapitres, le mot revient 4 fois, je crois, quelque chose comme ça. La persévérance. Et ils persévéraient. Et Paul encourage également les gens, persévérer dans Philippiens, dans quasiment toutes les épîtres, persévérer dans la prière. Veillez-y avec une entière attention, etc., etc. Donc, tu persévères, tu résistes et tu vois le salut de Dieu dans ta vie. Amen. On vit dans une génération qui n'est pas facile. Elle a ses défis, les autres avaient les leurs. Mais il est certain qu'aujourd'hui, il y a une pression qui est à nouveau mise sur nous parce que là, on est dans la fin des temps et parce que ben, les choses, elles vont aller crescendo, je dirais, vers la fin de ce monde-ci. Mais on peut quand même continuer à persévérer, à résister, à voir des miracles et des manifestations surnaturelles, et les exaucements aux prières, et l'accomplissement des promesses de Dieu, et à aller plus haut que ce que l'on était avant l'épreuve. Amen. Amen.